Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le français qui fume est-il une espèce en voie de disparition? En 5 ans, le nombre de fumeurs a chuté de 10% dans notre pays. Hausse des prix, paquets neutres, substituts nicotiniques semblent faire leur effet. Alors l'objectif d'une génération sans cigarette au bec est-il réaliste? On en parle à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. L'hôpital en crise accueille Emmanuel Macron aujourd'hui. Le chef de l'État attendu à Cherbourg au chevet des urgences. Alors qu'un peu partout en France, des services peinent à fonctionner et redoutent l'été. Pour le président, il s'agit aussi d'éviter la première crise sociale du quinquennat. Dans ce journal également, les stratégies des grandes entreprises remises en question par l'inflation. Au procès du 13 novembre, le drame des attentats n'empêche pas de parler d'amour, vous l'entendrez. Tandis qu'au Molière, c'est l'humour qui est récompensé cette année.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui le secrétaire général de Reporters sans frontières. Christophe Deloire.
France Inter.
8 millions de morts prématurées sont liées au tabac chaque année dans le monde, Alexis. 75 000 rien qu'en France.
Et c'est toujours la première cause de mortalité évitable dans notre pays. Même si il y a des raisons d'espérer en cette journée mondiale sans tabac. L'an dernier, le président de la République souhaitait que les jeunes de 20 ans en 2030 soient la première génération sans tabac, justement, c'est-à-dire avec moins de 5% de fumeurs. Victor Dolande, cet objectif ambitieux est-il aujourd'hui réalisable?
30% de fumeurs en France, aujourd'hui c'est 10% de moins qu'il y a 5 ans. On connaît la recette de cette baisse, le paquet neutre, le remboursement des substituts nicotiniques et l'augmentation des prix, plus de 10 euros pour un paquet actuellement. Le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Verne à Paris, est très optimiste, mais il faut poursuivre ses efforts.
Maintenant, il faut passer le paquet à 15 euros en 2027, donc dans 5 ans, c'est quelque chose de faisable en augmentant les taxes de façon adéquate. Il ne faut pas laisser de côté les tabacs roulés et surtout tous les nouveaux tabacs chauffés où l'industrie essaye d'échapper un petit peu en faisant croire que ces produits sont moins dangereux, moins toxiques, ce qui n'est pas le cas.
Concernant les jeunes, 50% des moins de 18 ans fumaient en 1991. Ils sont un peu moins de 25% aujourd'hui. Alors pourquoi pas 5% dans une dizaine d'années? Le tabac est devenu ringard pour eux, estime Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart.
C'est de moins en moins cool pour les jeunes et ils le perçoivent en tout cas de cette manière-là. Et des messages clairs au niveau des jeunes peut permettre de dénormaliser justement le tabac. Après, ils ont aussi la possibilité d'être aidés par les substituts nicotiniques.
Tous les spécialistes plaident aussi pour davantage de contrôle sur les ventes aux mineurs de puffs, ces mini-cigarettes électroniques très en vogue sur les réseaux sociaux.
Et à l'occasion de cette journée sans tabac, l'OMS rappelle de son côté qu'il n'y a pas que pour l'homme que la cigarette est toxique. Cette industrie est aussi l'un des plus gros pollueurs de la planète. Un seul mégot jeté dans la nature peut polluer jusqu'à 100 litres d'eau selon l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est justement le thème qu'a choisi Emmanuel Macron pour reprendre la route, lui qui se fait rare depuis sa victoire en avril. Le président attendu cet après-midi à l'hôpital de Cherbourg, en pleine crise des urgences, 120 services en difficulté partout en France. Les médecins craignent une catastrophe cet été. Alors Simon Le Baron, il s'agit pour le chef de l'État de montrer qu'il n'est pas inactif sur ce dossier.
Il a fait de la santé l'une de ses priorités dès le soir de sa réélection. La difficulté pour Emmanuel Macron, convaincre qu'il peut encore agir sans laisser penser que le bilan des 5 ans écoulés n'aurait servi à rien. Les milliards du Ségur, la fin du numerus clausus, le doublement des maisons de santé mises en avant par l'Élysée, pas suffisant ou trop lent, déplorent les syndicats de soignants. À défaut d'annonces choc, même s'il pourrait tracer des perspectives, nous dit son entourage, sur un plan de recrutement, le chef de l'État veut donc privilégier les solutions pragmatique, ce mot qu'il affectionne, raison pour laquelle il a choisi cet hôpital. L'établissement compte désormais en partie sur le SAMU pour réguler les entrées aux urgences, une bonne pratique selon la présidence. La nouvelle ministre de la Santé s'est donné 15 jours pour consulter avant de prendre des mesures pour faire face à l'été. Premier acte aujourd'hui donc, à moins de 2 semaines du premier tour des législatives, Emmanuel Macron ne veut pas voir l'hôpital devenir le lieu de la première grande crise sociale de son second mandat.
Et après Cherbourg, cette mini tournée présidentielle se poursuivra à Marseille où Emmanuel Macron doit se rendre jeudi avec son ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. La France reste le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers avec 1222 projets au total en 2021. L'Hexagone est sur la première place du podium européen pour la 3e année consécutive selon le baromètre du cabinet EY. D'autant que le rebond par rapport à 2020, plus 24%, est plus fort que chez nos voisins. Mais les projets d'investissement en France génèrent moins d'emplois qu'ailleurs. On en reparle avec Dominique Seux juste après ce journal. Voilà donc une bonne nouvelle à nuancer, mais une bonne nouvelle quand même pour une économie française menacée par la forte inflation. On attend ce matin les chiffres du mois de mai. En avril, il frôlait déjà les 5%. Cette hausse des prix contraint les entreprises à revoir leur stratégie de développement. À l'image, par exemple, de Petit Navire, la marque bretonne de conserve de poissons, espérait profiter de l'engouement suscité par la crise sanitaire pour lancer de nouveaux produits. Eh bien, c'est aujourd'hui remise en cause, Agnès Soubiran.
La conserve de poisson, valeur refuge durant les confinements, avec une hausse des ventes de 8%. De quoi donner à Petit Navire des envies de développement, qui pour fêter les 90 ans de la marque, lance 10 nouveaux produits. Problème ?
On a du thon à l'huile, on a des sardines à l'huile. Et bien entendu, l'huile a été peu disponible, très chère, et ça reste extrêmement compliqué.
Alexis Jacquan, directeur général de Petit Navire.
Mais c'est vrai aussi sur l'acier, c'est vrai aussi sur l'aluminium, qui sont les composants de nos boîtes, de nos emballages. C'est vraiment une situation extrêmement tendue là-dessus. C'est vrai aussi sur l'énergie, et l'énergie ça a un impact sur le coût de fabrication dans nos usines, mais ça a aussi un impact sur les pêcheries qui sortent en mer pour s'approvisionner en poissons.
La marque a tout de même choisi d'investir 1,5 million d'euros sur son site de Douarnenez, où travaillent 200 des 1000 salariés du groupe. C'est là que seront en grande partie fabriquées les nouvelles références, avec la nécessité de sans cesse s'adapter.
Comment est-ce qu'on prépare la saison? Comment est-ce qu'on décale certaines promotions parce que l'approvisionnement n'est pas disponible? C'est vraiment un travail de tous les instants et c'est pas toujours évident d'arriver à suffisamment anticiper la disponibilité de nos produits, donc on est en permanence en train d'interagir avec nos clients.
Malgré cette hausse des coûts de fabrication estimée entre 20 et 30%, Petit Navire, qui renégocie actuellement les prix avec la grande distribution, espère conquérir de nouveaux marchés pour conserver sa position de leader.
Une enquête pour crime de guerre ouverte à Paris après la mort du journaliste de BFM TV hier en Ukraine. Frédéric Leclerc-Imov, tué dans l'est du pays alors qu'il accompagnait des civils évacués à bord d'un bus. C'est la sixième fois depuis le début de ce conflit que le parquet antiterroriste français se saisit. Et face à la détermination de Moscou en Ukraine, les Européens avaient à cœur de préserver leur unité. Les 27 se sont mis d'accord dans la nuit pour arrêter l'essentiel de leurs achats de pétrole russe. 90% des importations devraient cesser d'ici à la fin de l'année. C'est très significatif, même si ce n'est pas un embargo total, en raison de la dérogation accordée à la Hongrie, qui menaçait sinon de tout bloquer.
Il est 7h37 au procès des attentats du 13 novembre 2015. Il reste, Alexis, à peine un mois d'audience avant le verdict.
Oui, et toute cette semaine encore est consacrée aux plaidoiries des avocats des parties civiles. Une partie de ces 300 robes noires s'est regroupée pour éviter les redondances et organiser donc des plaidoiries par thématique. Ces derniers jours, il a été question de radicalisation, mais aussi, Charlotte Piret, d'amour brisé.
Il y avait plein d'amoureux ce soir-là, mariés, paxés, énumère maître Frédéric Giffard, homosexuel, un homme qui aimait sa collègue en secret, un premier rendez-vous Tinder. La mort en a séparé certains, et pour les survivants, le traumatisme a mis l'amour à rude épreuve. Dans l'intimité surtout, car comment on renoue avec un corps qui fait mal? On montre un corps abîmé, on s'autorise un peu de plaisir quand on s'en veut déjà d'être vivant, interroge l'avocate. Et pourtant, il y eut, après le 13 novembre, des rencontres, de l'amour à nouveau, des enfants aussi. Des enfants qui, pour 69 d'entre eux, ne diront plus jamais « papa, maman », parfois les deux, plaide à son tour maître Elena Christidis, Tamia, Kevin, Samy, Elsa, Milan, Shana. Être enfant victime de terrorisme, poursuit l'avocate, c'est comme Gary faire la liste de toutes les choses qu'il ne fera plus jamais avec son papa. C'est faire des dessins de ses parents avec des visages tristes et apeurés. Imaginez mettre du miel dans les cheveux des méchants parce que ça colle. Ce sont aussi Zainab, Asia, Mehdi, énumère maître Christidis, enfant des accusés. Car oui, messieurs les accusés, vos enfants n'ont pas demandé à naître dans ce monde que vous avez choisi et que vous avez empli de terreur.
Et le verdict est attendu le 29 juin prochain. Voilà une décision qui devrait rassurer les médecins qui signalent des soupçons de maltraitance ou d'inceste. Le Conseil d'État annule une sanction contre l'une d'entre eux. En l'occurrence, une pédopsychiatre toulousaine suspendue par le Conseil de l'Ordre car elle avait transmis une suspicion de mauvais traitement sur un enfant à un juge, ce qui lui avait valu des poursuites pour violation du secret professionnel. Poursuites injustifiées, estime donc le Conseil d'État. Fin mars, la Commission sur l'inceste avait déjà appelé à protéger les médecins de ces procédures disciplinaires pour ce type de signalement. On le sentait venir vu les records battus ces dernières semaines. Météo France le confirme ce matin, ce mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré en France avec des températures moyennes supérieures de plus de 3 degrés au normal saisonnière.
Et les comédies ont triomphé aux Molières.
Et oui, n'en déplaise aux dramaturges français dont on fête les 400 ans de la naissance. C'est une pièce de théâtre de Shakespeare qui a raflé la mise hier soir. 4 récompenses pour Comme il vous plaira, dont celle du meilleur spectacle du théâtre privé. Et ce n'est pas la seule comédie mise à l'honneur lors de cette 33e cérémonie, Stéphane Capron.
Nommé 4 fois, Les Gros patinent bien remporte le Molière du théâtre public, un spectacle inclassable, loufoque, porté par Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois, qui a réclamé à la ministre de la Culture hier soir la création d'un théâtre national de la comédie.
C'est une bataille un petit peu à mener, et c'est pour ça qu'on l'adressait à la ministre de la Culture, parce que c'est important de lui dire que cette chose-là, elle est compatible avec l'acte artistique et l'acte politique.
Léna Bréban et sa mise en scène de Comme il vous plaira de Shakespeare est la grande gagnante de la soirée.
J'espère que ça ouvrira la porte à la fin des chapelles et qu'on puisse faire son travail aussi bien, qu'on soit dans le privé, dans le public, dans un collège et vraiment partout. Et je suis pour qu'on joue vraiment partout, tout le temps en fait.
Clotilde M. a reçu le Molière de la comédie du théâtre public pour Stallone, un spectacle créé en octobre 2019 et qui a tourné partout en France.
C'était super d'aller à la rencontre des publics, de tous les publics et de voir aussi l'attente qu'il y avait, le désir d'être ensemble, être au théâtre et partager et pas être devant sa télé. Par ailleurs, je participe à des séries, mais le nerf de la guerre, c'est le théâtre. Ma colonne vertébrale, c'est le théâtre.
Deux autres grands succès publics ont reçu 2 récompenses, la comédie musicale Les Producteurs et Le Voyage de Gulliver.
Une cérémonie des Molières sous le signe de MeToo, avec de nombreux appels sur scène à faire bouger les lignes contre les violences sexistes dans le théâtre. Et voici la pièce la plus jouée de l'histoire du tennis masculin. Djokovic-Nadal, 59e confrontation ce soir à Roland-Garros. Le choc des quarts de finale, voire de cette quinzaine à partir de 20h45 sur Prime Video, mais en version gratuite. En attendant, si vous voulez vous tester sur ce duel légendaire, rendez-vous sur franceinter.fr. On vous a préparé un petit quiz, Nadal. Djoko. Personnellement, je m'en sors avec 4 sur 10, donc vous pouvez faire mieux.
Merci Alexis Morel, l'édito politique.